Durant l'année scolaire 2025-2026, 25 élèves ont participé à un projet historique et mémoriel encadré par Nadia Mounir, Frédéric Margarito et Dimitri Vouzel. Le thème du projet était « Shoah et justice ». Le groupe a travaillé sur des archives locales et nationales et a participé à un voyage d'études qui les a menés d'Insert-SS-Sonderlager à Nuremberg, Mittelbau-Dora et Bergen-Belsen.
C'était la première fois que l'on allait juger pour crime contre l'humanité les dirigeants d'un pays vaincu après une guerre.
20 novembre 1945. 6 mois et demi après la capitulation de l'Allemagne, le procès de Nuremberg s'ouvre. L'objectif du tribunal, inscrit dans son statut, est clair. La poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre nazis. Cet événement sans précédent reste 80 ans après sans postérité. Aucun procès comparable n'a eu lieu jusqu'à aujourd'hui.
Toutefois, la mise en place d'un tribunal militaire international n'a pas toujours été une évidence. Si le 17 décembre 1942, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS signent la première déclaration prenant officiellement acte du massacre des Juifs d'Europe et affirmant la volonté de poursuivre les responsables. Churchill, comme Staline, après leur victoire, exprime la volonté d'exécuter les hauts dignitaires nazis sans passer par un procès. Le petit père des peuples suggéra même de fusiller 50 000 nazis en guise de punition. Ce sont les États-Unis qui exercèrent leur influence pour ériger le symbole d'un procès équitable qui deviendrait une vitrine de la justice démocratique. Le diplomate américain Cordermull explique, je cite, qu'une condamnation après une telle procédure sera conforme au jugement de l'histoire, de sorte que les Allemands ne pourront pas prétendre qu'on leur arrachait, sous la contrainte, un aveu de culpabilité dans la guerre.
Le choix de Nuremberg comme lieu du tribunal n'est lui aussi pas anodin. En effet, la ville s'impose d'abord par un souci matériel. L'Allemagne est à l'époque en ruine et il existait peu d'endroits pouvant accueillir autant de personnes. Mais c'est surtout symboliquement que Nuremberg est retenu. Celle qu'on surnommait la Mecque du nazisme est un lieu mythifié par Adolf Hitler lui-même. C'est notamment là-bas qu'ont été adoptées les lois antisémites de 1935. Par ailleurs, ce sont les prisonniers nazis eux-mêmes qui ont travaillé à remettre en état la grande salle du palais de justice de Nuremberg, en attendant leur procès.
Ce dernier accueillera 400 visiteurs par jour, dont 325 correspondants représentant 23 pays différents. C'est le juge à la Cour suprême et ancien procureur des États-Unis, Robert Jackson, qui est chargé par Harry Truman de préparer le procès. Geoffrey Lawrence, juge britannique, préside lui le tribunal. Il y a la présence exceptionnelle d'une traduction en direct avec des interprètes anglais, français, russes et allemands. Les quatre chefs d'accusation énumérés par Jackson sont 1. La conspiration pour commettre des crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. 2. Crimes contre la paix. 3. Crimes de guerre. Et 4. Crimes contre l'humanité. Il est important de comprendre que le terme de génocide n'est pas retenu comme crime pendant le procès pour plusieurs raisons. Ce mot était nouveau, inventé en 1944 par le juriste Raphaël Lemkin. Il n'existait pas encore en droit international comme crime juridiquement défini. Les Alliés ont donc préféré s'appuyer sur des catégories reconnues universellement, puisque la définition de génocide était encore débattue par des États.
Ainsi, 24 accusés furent sélectionnés pour constituer un groupe représentatif des dirigeants diplomatiques, économiques, politiques et militaires nazis.
Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walter Funk, Hjalmar Schacht, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Karl Dönitz, Erich Räder, Baldur von Schirach, Fritz Saukel, Alfred Jodl, Martin Bormann, Franz von Papen, Arthur C. Finkwart, Albert Speer, Constantin von Neurath et Hans Fritsch.
Seulement 21 comparurent. Gustav Krupp, un grand industriel au service des nazis, était trop vieux. Martin Bormann, le secrétaire du parti nazi, était porté disparu et a donc été jugé par contumace, et Robert Ley, responsable du front allemand de travail, s'est suicidé avant l'ouverture du procès. Tous les accusés ont eu le droit à l'avocat de leur choix. Ils ont tous plaidé non coupables.
Ich bekenne mich nicht schuldig.
Von Waffen.
Ich kenne mich keinesfalls schuldig.
Nicht schuldig. Tous le répéteront, on remarque aussi de grandes absences durant le procès. Adolf Hitler, Heinrich Himmler et Joseph Goebbels ne sont pas jugés. Ils sont tous les trois morts. Les alliés ont considéré que les jugés, symboliquement, décrédibiliseraient le procès.
Le 1er octobre 1946, les juges rendent leur verdict. 12 accusés sont condamnés à mort, dont Fritz Sauckel, responsable du travail forcé, Hans Frank, gouverneur de la Pologne occupée, ou encore Hermann Göring, maréchal du Reich et chef de la Luftwaffe. Ce dernier échappa à la pendaison en se suicidant par cyanure la veille de son exécution. Le choix de la pendaison a été vivement décrié par la défense, jugeant que les condamnés, étant pour la plupart militaires, méritaient une mort honorable. Les juges ont délibérément refusé de leur accorder un symbole militaire. Après leur mise à mort, ils furent incinérés à Dachau et leurs cendres furent jetées dans le fleuve Isar. Le reste des accusés ont été condamnés à la prison à vie pour 3 d'entre eux, à des peines de 10 à 20 ans de prison pour 4 autres, et 3 furent acquittés.
Pour éviter qu'on puisse reprocher au tribunal de se fonder sur des déclarations possiblement biaisées, le procureur Robert Jackson justifia ses décisions en se basant sur les documents nazis plutôt que sur des témoignages oculaires. Cependant, ces témoignages révélèrent beaucoup de ce que nous savons sur l'Holocauste, notamment vis-à-vis des détails de l'usine d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, de la destruction du ghetto de Varsovie, ainsi que l'estimation de 6 millions de victimes juives. Le 28 janvier 1946, les témoignages de la résistante et déportée Marie-Claude Vaillant-Couturier s'inscrivent particulièrement dans cette dynamique.
Êtes-vous témoin direct de la sélection à l'arrivée des convois?
Oui, parce que le bloc où nous habitions était en face de l'arrivée du train.
Marie-Claude Vaillant-Couturier crée l'événement au procès de Nuremberg en plantant ses yeux dans ceux des criminels nazis.
Ça me paraissait un miracle d'être, moi, vivante, en face des hauts dignitaires nazis, et en particulier de Göring. Et je me disais, avec mes yeux, ce sont des milliers et des milliers de morts et de mortes qui vous regardent.
Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin par les hommes qui travaillaient au Sonderkommando, le commando des gaz, que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans les fournaises.
Ces différentes prises de parole pendant le procès ont été des clés à la notion de crime contre l'humanité.
Si le procès du tribunal militaire est celui que l'histoire retiendra le plus, il est important de savoir que cela n'a pas été le seul. Il existe ce qu'on appelle les 12 procès successeurs de Nuremberg. Les premières mises en accusation de ces procès furent prononcées le 15 novembre 1947. Les débats s'ouvrirent ensuite le 16 janvier 1948 et se poursuivirent jusqu'au 18 novembre 1948. À l'issue de ces audiences, les juges mirent enfin 5 mois pour rédiger la sentence, un document de 833 pages qui fut finalement rendu le 11 avril 1949. Les magistrats siégeant étaient des membres du 4e tribunal militaire de l'armée américaine. William Christison, président du tribunal, accompagné de Robert Maguire et Leon Powers. Le procureur général, Robert Campuer, exerçait également la fonction de président du ministère public. Au total, 21 accusés ont comparu, tous issus de différents ministères du Reich. 2 furent acquittés, tandis que 19 autres furent condamnés à des peines allant de 3 à 25 ans de prison. Parmi les figures les plus notoires, on peut citer Wilhelm Kepler, secrétaire d'État et conseiller économique d'Hitler, condamné à 10 ans de prison. Il fut libéré en 1951, il mourut en 1960 à l'âge de 77 ans. Karl Ritter, officier de liaison entre le ministère des Affaires étrangères et le haut commandement des forces armées allemandes. Condamné à 4 ans de prison, il fut libéré dès le jugement. Il décéda en 1968 à 85 ans. Paul Körner, secrétaire d'État et adjoint de Göring. Il fut libéré en 1951 et mourut en 1957, à l'âge de 64 ans.
La traque des nazis ne s'arrête pas aux fins des procès de Nuremberg. En effet, au cours des cinq années suivantes, ce furent des centaines de milliers de criminels nazis et de collaborateurs qui furent traduits en justice. Par exemple, Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz-Birkenau, a été jugé puis pendu à l'endroit de ses anciennes fonctions en 1947. Entre les années 50 et 60, on observe une période de flottement dans la traque des nazis. Elle s'explique d'abord par une volonté de tourner la page de la part des puissances occidentales. Les scientifiques nazis, dans le contexte naissant de la guerre froide, sont réquisitionnés par les Américains et par les Soviétiques. Ces deux belligérants rentrent dans une course au progrès et protègent les nazis, source d'informations et de savoirs qu'ils considèrent indispensables. À partir des années 60, il y a une recrudescence des procès. Adolf Eichmann, logisticien de la solution finale, a été jugé en 1961. C'est notamment grâce aux historiens et chasseurs de nazis, comme le célèbre couple Klarsfeld, qui encourage ces comparutions en justice. Ces derniers ont notamment participé aux charges contre Klaus Barbie, arrêté le 25 janvier 1983. En France, Maurice Papon illustre cette dynamique. En 1998, il est condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité, concernant des actes d'arrestation et de séquestration, lors de l'organisation de la déportation des Juifs de la région bordelaise vers le camp de Drancy, dont ils ont été ensuite acheminés vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Ces actes ont été commis quand il était secrétaire général de la préfecture de Gironde, entre 1942 et 1944. Ainsi, les procès de Nuremberg et leurs successeurs s'inscrivent, avec une pluralité de modalités et de finalités, dans le devoir de justice internationale vis-à-vis de la barbarie nazie. À jamais, ils auront inscrit et puni dans l'histoire la purulence du Troisième Reich en la condamnant avec fermeté et régularité.
Réflexions, émotions, recueillements ont été les ressorts du projet. Au terme de celui-ci, les élèves et leurs enseignants sont désireux de continuer à promouvoir le devoir de connaissance. Nous tenons à remercier les institutions et les partenaires qui nous ont soutenus, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le Souvenir français, le ministère des Armées et Radio Shalom.